France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1978, année du 150e anniversaire de la naissance de Jules Verne, Roger Pilaudin consacrait 3 numéros de dialogue à l'auteur du Tour du Monde en 80 jours. De ces dialogues, nous allons entendre le deuxième qui, enregistré au Centre culturel de Cerisy-la-Salle, réunissait le très vernien François Raymond et la non moins spécialiste de l'œuvre de Jules Verne, Simone Vierne, pour une conversation qui avait pour thème le héros dans les romans de Jules Verne. En voyageant de la Terre à la Lune jusqu'au centre de la Terre, de 20 000 lieues sous les mers et de l'île mystérieuse jusqu'à Robur le Conquérant, en passant par bien d'autres des très nombreux romans de Jules Verne, les invités de ce dialogue soulignaient la hiérarchie que l'on pouvait établir entre les grands personnages de son œuvre, les caractères communs qui reliaient certains d'entre eux et ceux qui distinguaient les héros positifs des héros négatifs de ses récits. Qui sont Phileas Fogg, Otto Lidenbrock et Michel Ardan? Qui est le capitaine Nemo, le héros des héros verniens? Et dans l'œuvre de Jules Verne, en qui certains ont vu un Homère des temps modernes, peut-on reconnaître des répliques de Prométhée, d'Icare ou d'autres figures mythologiques? C'étaient les interrogations que croisait cette émission, dont la dernière partie s'ouvrait aux questions du public, qui s'interrogeait, lui, sur l'accueil fait au roman de Jules Verne par les jeunes lecteurs de 1978 et sur la place réduite des personnages féminins dans ces romans. Dialogue, Jules Verne, le héros et son ombre, deuxième de 3 émissions, diffusée le 26 septembre 1978 sur France Culture.
Seconde tentative, ce soir, dans le cadre des Dialogues de France Culture, de dépoussiérer le monument Jules Verne. Avec Jean Chéneau et Francis Lacassin, nous nous attachions, voici quelques semaines, aux données idéologiques, explicites ou implicites de l'œuvre vernienne. Ce soir, nous nous intéresserons de plus près au récit lui-même, à travers ses héros. Que sont-elles donc ces innombrables figures gardées dans nos têtes? Nemo, Phileas Fogg, Passepartout, Barbicane et tant d'autres. Souvent passés au rang de figures légendaires, ces héros peuvent pourtant être ordonnés à l'intérieur de l'œuvre vernienne de manière à fournir l'une des clés de l'énorme corpus de plus de 60 romans. C'est le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle qui nous accueille ce soir. Ce dialogue de France Culture y a été enregistré en marge d'une décade sur Jules Verne et les sciences humaines en juillet 78, décade dirigée par Marc Soriano, François Raymond et Simone Vierne. François Raymond dirige à la Revue des Lettres Modernes une collection d'études consacrée à notre auteur intitulée tout simplement Jules Verne. 2 numéros sont parus à ce jour. Simone Vierne est professeure à l'Université de Grenoble et est l'auteur d'une thèse publiée aux éditions du CIRAC en 1973 sous le titre « Jules Verne et le roman initiatique ». Jules Verne, le héros et son ombre. Simone Vierne.
Si nous avons intitulé ce dialogue « Le héros et son ombre », c'est parce que nous voulions essayer, François Raymond et moi, de montrer que, comme on le sait, on a souvent une très mauvaise idée, une très mauvaise vision de Jules Verne. Très souvent, on entend dire que Jules Verne a des quantités de qualités, mais que ces héros sont évidemment très simples. J'ai même lu quelque part qu'ils étaient des marionnettes. Et on insiste toujours beaucoup sur la pauvreté de la psychologie des héros verniens. Moi, c'est ce que j'appelle la tendance bien française « princesse de Clèves ». C'est-à-dire que, au fond, on exige toujours que tous les romans soient sur le modèle de la princesse de Clèves.
Qu'ils soient psychologiques ou sociaux.
Bien sûr.
Ce qui n'est le cas... Ce qui n'est pas le cas pour Jules Verne.
Ce qui n'est pas le cas pour Jules Verne. Ce qui m'amuse aussi, c'est que je me dis parfois qu'on ne songe jamais à reprocher à Homère la psychologie, très sommaire après tout, du bouillant Achille ou même du subtil Ulysse. Or, on devrait se rendre compte d'abord qu'il y a un certain nombre de héros de Jules Verne qui sont, j'allais dire, passés dans notre culture complètement et que on dit aussi bien c'est un Ulysse que l'on dit maintenant, il suffit de regarder la presse ou même les romans, je songe à Camille Bourniquel, Nemo, c'est un Nemo. Nemo est devenu véritablement une figure qui fait partie absolument de notre culture et de notre environnement.
C'est cela. Nemo est devenu un mythe. C'est ce que vous voulez dire.
Oui, Nemo.
Un personnage mythique.
C'est cela. C'est le héros d'une aventure. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut... examiner le héros en tant que héros d'une aventure et qui ne vaut que par et pour l'aventure, qu'il dote justement de son statut d'aventure héroïque. Et d'ailleurs, Jules Verne, d'une certaine manière, nous donne l'indication parce que il fait souvent des allusions à des héros mythiques, pour qualifier, on en reparlera d'ailleurs probablement, parfois pour qualifier ces héros, parfois aussi par des allusions, par un certain nombre d'allusions.
François Raymond.
On en trouve beaucoup, et vous en avez rassemblé vous-même dans votre ouvrage sur le roman initiatique. Robur le Conquérant, par exemple, est comparé à Icare, est déjà le héros de sa première nouvelle de jeunesse, Un voyage en ballon. Alors Prométhée revient souvent, notamment dans L'île mystérieuse, c'est également... un héros modèle, dans le château des Carpates, n'est-ce pas? Il est également aussi question de Thésée et de son labyrinthe.
Oui, et d'ailleurs on pourrait, enfin, mais ce n'est pas ici notre propos, s'interroger sur la fréquence de certains de ces héros mythiques qui reviennent très fréquemment, qui sont souvent des héros très absolus. Mais je pense que ce qu'il faut que nous examinions plutôt, enfin, ce dont nous avons à discuter, c'est justement la complexité... de réel de ces héros vient d'un autre lieu que la traditionnelle complexité psychologique. L'ombre du héros joue avec le récit tout entier et soit qu'il lui donne d'ailleurs une dimension mythique, soit qu'il joue dans la dénonciation de ce récit. Car je pense qu'il y a ces deux aspects. C'est pour ça que ça commence déjà à devenir compliqué.
Il y a ces deux aspects.
Et un aspect, évidemment, l'aspect le plus évident, c'est celui qui concerne le héros comme héros d'un récit mythique, puisque tout de même, il faut bien dire, et beaucoup de gens l'ont dit, beaucoup de lecteurs modernes, par exemple Le Clésio, qui considère que Jules Verne, au fond, a écrit l'Iliade et l'Odyssée de notre époque. Donc les héros sont des héros qui ont une fonction dans le récit mythique et par rapport au mythe. Et de ce point de vue-là, on peut notamment voir, je crois, que les héros ont entre eux des rapports particuliers. Des rapports particuliers qui sont des rapports, par exemple, de hiérarchie.
François Raymond.
Oui. Alors, évidemment, il y a la question de la hiérarchie des personnages chez Jules Verne. Je me permets notamment de revenir un petit peu en arrière pour vous faire remarquer que Le Clésio disait que... les romans de Jules Verne étaient une odyssée moderne.
Moderne, oui.
C'est donc un mythe moderne. et oui. non pas seulement la reproduction oui. du mythe ancien.
Oui, mais de toute façon, les mythes sont toujours, quand ils sont vécus pleinement, réactualisés, revécus par le par l'écrivain ou par le personnage, enfin, d'une manière moderne. Mais effectivement, c'est important, c'est qu'ils soient à la fois, qu'ils aient à la fois une référence dans des mythes que nous connaissons tous et que nous vivons tous en définitive, et puis qu'ils aient aussi une référence dans le monde moderne. Ouais. C'est très net. Par exemple, là, cette hiérarchie. Il y a très souvent la hiérarchie du, j'allais dire, enfin, pour reprendre les termes du maître, du disciple ou novice, et puis la catégorie des profanes. Eh bien, Jules Verne les représente aussi par une hiérarchie sociale. C'est extrêmement net dans l'île mystérieuse. Dans l'île mystérieuse, ça se dédouble d'ailleurs beaucoup. Il y a une espèce de divinité, de providence, dont on saura par la suite, et ça pose problème, qu'elle s'appelle, qu'elle est Nemo, personne, qu'elle s'appelle donc d'un nom qui est quand même plein d'allusions mythologiques, ne serait-ce qu'à Ulysse, mais qui en plus veut dire personne. Mais par rapport à ce grand référent divin, si je puis dire, tout le long du roman, on appelle cette personne qui intervient la Providence. Il y a donc le groupe du maître, enfin, je dis le groupe du maître parce que le maître est un tout petit peu dédoublé, mais enfin, c'est Cyrus Smith et éventuellement son aide, Gédéon Spilett. Et puis, il y a un novice qui est un jeune homme et qui s'appelle Harbert. Et à côté, il y a le groupe des profanes, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui aident beaucoup, mais qui naturellement auront le droit de voir le capitaine Nemo à la fin. Mais si vous voulez, ils ne sont pas impliqués dans l'aventure de façon à ce qu'ils soient changés. Ils restent toujours tels qu'ils sont du début à la fin, c'est-à-dire Pencroff et Nab. Or, hiérarchiquement et socialement, véritablement, on parcourt toute la hiérarchie. On la parcourt même d'ailleurs tellement que on commence par le singe, parce que dans l'île mystérieuse, les héros ont réussi à domestiquer un singe qui est presque aussi bien qu'un homme, qui fait presque tout, qui d'ailleurs singe l'homme puisqu'il fume la pipe. Et puis un peu plus au-dessus, on a un nègre. Alors là, il faut se référer naturellement à toute l'idéologie de l'époque. Et puis le nègre Nab qui est plein de dévouement, enfin on a là tout à fait un stéréotype, et Pencroff qui a été un moment le père adoptif, mais j'allais presque dire la mère adoptive, parce que Pencroff est très maternel avec Harbert, mais ceux-là ce sont de l'ordre des domestiques. Harbert est déjà, lui, de l'ordre des gens qui socialement sont un peu plus important, puisqu'il va devenir, il est le fils d'un capitaine, etc.
Oui, et puis il est détenteur d'un certain savoir, il est extrêmement fort en botanique, et il sera visiblement l'héritier du savoir de Cyrus Smith.
Alors Cyrus Smith, lui, c'est l'ingénieur, ce qui représente à l'époque véritablement le summum à la fois de la science et de la connaissance. Je signale en passant que ça agaçait abominablement Jean Giono, qui trouvait que ce Cyrus Smith et sa connaissance et ces gens qui lui étaient toujours dévoués étaient parfaitement ridicules et odieux. Et je pense que de ce point de vue-là, Giono avait tort, et que quelqu'un comme Claudel avait, lui, une intuition bien plus sûre de ce que pouvaient être les rapports entre les héros et même la quête des héros, car il admirait beaucoup l'île mystérieuse, et dont il pensait que c'était un roman de quête, pas seulement un roman d'aventure, qu'on cherchait quelque chose. Et pour chercher quelque chose, eh bien, il faut qu'il y ait un maître, quelqu'un qui sache et qui initie un être plus jeune. Et alors, bien entendu, on ne peut pas dire que Harbert ou Cyrus Smith ou Gédéon Spilett nous soient dessinés avec des conflits psychologiques personnels importants. Ça n'est pas cela du tout. Mais pour qu'il fonctionne dans le roman et pour que le roman fonctionne, il faut qu'il y ait cette hiérarchie. Et je pense qu'on peut la lire de différentes manières. On peut la lire par rapport à l'idéologie, on peut la lire par rapport au mythe initiatique, et on peut la lire par rapport au fonctionnement du roman.
Oui, mais alors, je suis d'accord. Mais le fait même que le héros principal, soit si souvent comparé à un héros mythologique introduit une distance et une infériorité du héros de Jules Verne par rapport au héros mythique.
Oui, ça va même assez loin, parce que d'une certaine manière, Ardan est comparé à Icare. Seulement, c'est une sorte de Icare qui retombe sur ses pieds. C'est-à-dire qu'il n'a pas le destin tragique.
Et avec des ailes d'orchange.
Il a des ailes d'orchange, c'est
avec
ça.
Avec des ailes d'orchange.
C'est une expression tout à fait amusante. Et alors, évidemment, on a là un personnage, le Michel Ardan, qui est le passager, celui qui va penser à aller de la Terre à la Lune, est un personnage qui est peut-être Icare, mais qui est une incarnation moderne d'Icare. Et peut-être déjà, on pourrait déjà introduire ce que je disais au début, dans lequel se glisse une espèce de distance par rapport à ce héros mythologique, de distance de Jules Verne.
François Raymond.
Il y a une distance, certainement. D'abord parce qu'il est traité sur le mode plaisant, c'est un personnage plaisant, même un plaisantin.
Oui.
Et puis,
il fait quantité d'astuces.
Il se moque d'ailleurs de la science de ses compagnons Barbicane et Nicole. Et puis là, il y a quand même une chose assez frappante. On croit toujours que dans Jules Verne, le héros est un héros triomphant, comme le héros épique, ou comme le héros de la chanson de geste du Moyen-Âge. Mais il faut bien voir qu'en réalité, ces Icares, comme d'ailleurs l'Icare de la légende, finissent par tomber, mais par tomber sans avoir atterri sur la Lune. Ils ont eu beaucoup de mal à atteindre cette lune parce qu'ils ont été déviés par un satellite dont ils ignoraient l'existence. Alors ils n'ont pas frappé droit sur la cible, ils se sont mis à tourner autour et ils n'ont même pas pu à l'unir, alors que c'était le désir visible et explicite de Michel Ardan. Et ensuite, ils seront forcés de revenir, ils n'ont donc fait nullement la conquête de la lune, ils ont tout simplement tourné autour. Et symétriquement, dans le voyage au centre de la Terre, Lidenbrock est comparé par exemple à Ajax, aux colères d'Ajax qui étaient célèbres. Alors les colères de Lidenbrock sont au moins célèbres. Mais d'abord elles sont un peu ridiculisées.
Simone Vierne.
Oui, là, je crois que Lidenbrock est un personnage qui me fascine un peu. Parce que Lidenbrock est un personnage extrêmement complexe. Non pas dans sa psychologie.
Pas psychologiquement.
Psychologiquement, il est toujours agacé, il est toujours plein d'excitation. Il tire sur les feuilles des plantes pour les faire pousser. Il est toujours
obsédé par le centre de la Terre. Par la
Mais alors, il est ridicule, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand même celui qui a trouvé, non pas déchiffré, mais trouvé le message de Saknussemm. Et c'est grâce à cette espèce d'impatience volcanique, si je puis faire ce jeu de mots, puisqu'on parle beaucoup de volcans dans le roman, c'est grâce à cette impatience volcanique que le roman, ou que l'aventure peut se dérouler. Il peut avoir aussi par moments des gestes humains par rapport à son neveu. Et on a l'impression que s'il n'est pas humain par rapport à son neveu, c'est parce que le neveu est extrêmement peureux et que si l'oncle se laissait aller à un peu de tendresse, le neveu en profiterait pour ne pas se lancer dans l'aventure.
Et il est comme Phileas Fogg, il a du cœur quand il a le temps.
Oui,
mais je crois ça lui arrive une fois dans le roman, lorsque Axel meurt de soif.
Et puis alors, quand même, Axel a, à un moment donné, puisque c'est lui le narrateur dans le roman du Voyage au centre de la Terre, cette expression qu'il a une énergie surhumaine. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui est vraiment l'entraîneur.
Ah oui, ça c'est certain.
Mais c'est l'entraîneur qui, en même temps, prête à rire et à sourire. Outre que c'est le prototype du savant ridicule qui bute sur les mots.
Qui bégaye, qui fait des conférences au centre de la Terre dès qu'il tombe sur un homme préhistorique. Il se croit devant ses élèves.
Il s'adresse à tout un
auditoire. Son bégaiement le reprend.
Mais je suis d'accord avec vous. J'avais été très frappée dès que j'ai travaillé sur Julien. Et les enfants sont extrêmement sensibles à cela. Lorsque j'avais eu des petits élèves de sixième, qui avait travaillé
sur... On se moque du maître.
C'est aussi ce qui les fascinait, il me disait. Mais madame, pourquoi ne sont-ils pas allés au centre? Ils devraient recommencer, ils devraient repartir, parce qu'il faut qu'ils arrivent au centre. Il faut qu'ils arrivent, et pas...
Mais justement, ils n'y arrivent pas. De même qu'ils n'arrivent pas à conquérir la Lune dans le roman Autour de la Lune, de même, on croit toujours, le voyage au centre de la Terre, c'est un voyage vers le centre de la Terre. Et Lidenbrock, qui attire les autres, et notamment Axel, qui est très pantoufleur et très heureux, comme vous l'avez dit, est en même temps un personnage attiré, et attiré par un prédécesseur, ce fameux Saknussemm. Mais Saknussemm est allé plus loin que lui.
Oui,
à un moment, on voit une porte où Saknussemm a laissé une de ses traces, on est sûr qu'il est descendu plus loin, et au moment où, par un coup de force, ils font sauter cette porte,
sauter.
C'est Axel d'ailleurs qui l'a fait sauter cette fissure qui s'est bouchée, Eh bien, au lieu d'aller vers ce centre qui est l'unique pensée obsédante de Lidenbrock, eh bien, ils sont pris par un faux de lave qui va les propulser, les expulser de la Terre. Et si vraiment on faisait les calculs et de la distance à laquelle ils sont descendus sous l'écorce terrestre, on s'aperçoit qu'ils ont à peine pénétré sous la peau de l'écorce d'orange et qu'ils sont ressortis par l'autre bout en ayant très peu.
Oui, je crois, pendant qu'on voyage au centre de la Terre et qu'on parle des héros, il faut quand même dire qu'il se passe quand même quelque chose. C'est que Axel, qui, comme on l'a dit tous les deux, était très pusillanime et n'avait pas du tout envie de descendre, à partir d'un certain moment, a une conversion et que c'est lui qui veut descendre et c'est lui qui fait sauter. Il a d'ailleurs grandement tort de faire cela, car on ne peut pas pénétrer, et là évidemment ça a des tas d'implications, on ne peut pas pénétrer par un coup de force et par une sorte de viol dans le centre de la Terre-Mère. Et je crois qu'il y a là quelque chose. Mais enfin, Axel a été transformé. Axel a quand même changé. Et il y a là aussi, non pas, c'est d'ailleurs pas du tout une explication, je crois, psychologique. Axel ne devient pas petit à petit courageux, n'apprend pas le courage. Il devient courageux, d'ailleurs assez précisément au moment où, après avoir été perdu dans le labyrinthe, il se réveille au bord de la mer intérieure. Il s'évanouit, il se réveille au bord de la mer intérieure, et à partir de là, il oublie complètement la chère Groben qu'il a laissée, qu'il va épouser en sortant. Et il part, cette fois-ci, c'est lui qui est impatient d'arriver. Et il dit même, à un moment donné, l'âme du professeur était passée en moi. Ce qui explique encore la raison pour laquelle je parle toujours de maître, de novice, et cette espèce de filiation.
Oui. Alors, effectivement, il n'y a pas de psychologie profonde, mais enfin, je crois qu'on peut parler de notion de contagion. Les personnages, les héros verniens sont tellement passionnés qu'ils arrivent à passionner leurs suivants, qui parfois deviennent même plus passionnés qu'eux. C'est un effet, un fait qui arrive aussi, je crois, entre Aronnax et Nemo. À un moment, Aronnax veut presque devancer Nemo.
Il a plus le temps de partir, d'ailleurs.
Il en a la tête complètement tournée boulée. Oui.
Avec Simone Vierne et François Raymond au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, Jules Verne, le héros et son ombre. Simone Vierne.
Alors, je pense qu'il y a aussi une autre déviation, si je puis dire, complexe du héros, une autre ombre, ou quelque chose qui donne une certaine ombre au héros typique, tel qu'on le voit dans les romans. À ce héros, on pense souvent que bon, c'est très manichéen, et surtout qu'il y a beaucoup trop de bons héros, courageux, gentils, plein d'énergie dans Jules Verne. Mais il faut pas oublier que Jules Verne a beaucoup joué sur un certain nombre de facettes du héros. Par exemple, il y a la possibilité que le héros tourne mal. Et là, je pense que c'est quelque chose de très important. Il y a tantôt, côte à côte, deux héros, un bon et un mauvais. Là, c'est notamment dans les 500 millions de la Bégome.
Oui, là, c'est très manichéen.
C'est très manichéen.
Comme dans les romans populaires.
Schultz, qui est l'abominable allemand, mais enfin, ça vient de l'époque, la guerre 70, etc. Et au contraire, le docteur français, qui construit Franceville. Les deux villes, Stahlstadt et puis les Franceville, sont tout à fait opposées. Mais moi, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir, par exemple, comparer par exemple Nemo, que tout le monde connaît à cause de 20 milieux sous les mers, et un personnage qui est quand même connu, mais peut-être un peu moins, qui est Robur le Conquérant. On a en définitive deux héros, j'allais dire de la même catégorie, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'inventer deux merveilleuses machines, qui deviennent maîtres d'éléments. Nemo devient maître de l'élément maritime, oui. Et Robur devient maître de l'air.
De l'air, oui, nouvel écart.
Et alors, il y en a un qui tourne très mal. C'est Robur, parce que dans le deuxième roman qui lui est consacré, Maître du Monde, il est devenu fou, paranoïaque, etc. Alors que, en revanche, Nemo, dans le second roman, L'île mystérieuse, c'est non pas retourner vers les autres humains.
Il faut être si c'est une conversion.
Mais enfin, c'est une conversion. C'est une conversion. Je suis pas sûr que s'il y avait eu un très gros groupe humain qui est débarqué sur l'île, il aurait été aussi touché que par ce petit groupe de personnages très sympathiques et très héroïques.
Que Michel Buteur appelait les Justes.
Les Justes, c'est ça. Et je pense que d'ailleurs, Jules Verne était très fasciné par ces héros maléfiques. Et pas seulement Jules Verne, d'ailleurs, je connais des élèves qui étaient très ravis par Nemo, disait-il à leur professeur, qui était une de mes anciennes élèves, parce que lui, au moins, il n'était pas un bon héros, ou entièrement un bon héros. C'était quelqu'un de, notamment dans 20 000 lieues sous les mers, qui tout de même avait des moments terribles.
Ah ben dans 20 milieux sous la mer, c'est un personnage tout à fait différent du Nemo de l'île mystérieuse. Le premier Nemo, Jules Verne
pourrait devenir Robur.
Il pourrait devenir Robur et à la fin, on parle de lui comme un archange de la haine.
C'est rien que ça.
Or, je ne connais pas d'autre archange de la haine que Satan lui-même dans notre mythologie.
C'est cela. Je crois d'ailleurs que, en fait, dans ce cas-là, on se trouve en face de cette notion du sacré qui a une face maléfique et une face bénéfique. Alors, dans le cas de certains héros, c'est, j'allais dire, la force bénéfique du sacré qui l'emporte, c'est le cas de Nemo. Et dans d'autres cas, c'est la force maléfique, c'est-à-dire dans le cas de Robur. Il y a d'ailleurs d'autres cas qui sont encore plus troublants, parce que les héros peuvent aussi être des gens gâteux, comme l'est le héros du village aérien, le docteur Charles.
Oui, mais alors là,
on
qu'il
en
faut
parlera,
distinguer.
Je crois.
Oui, c'est quelque chose de très différent.
C'est quelque chose de très différent.
François Raymond.
Mais je crois qu'il faut insister, que vous avez raison de le faire, sur les héros négatifs de Jules Verne. Nemo est encore ambigu, Robur tourne très mal puisqu'il devient complètement paranoïaque, mais c'est un schéma qui s'installe très tôt chez Jules Verne, puisque dès la nouvelle Maître Zacharius, qui est une nouvelle de jeunesse, Maître Zacharius est un espèce de Prométhée, mais et aussi de Satan, qui veut tourner à l'envers les lois de Dieu. Il veut faire dire à cette horloge mécanique qui donne des devises bien pensantes. Les devises se retournent parce que lui-même est un personnage qui veut au contraire cueillir les fruits de l'arbre à science, qui veut s'élever plus haut que Dieu. Alors naturellement, il est foudroyé, il y a une intervention. Alors là, surnaturel, c'est vraiment du fantastique surnaturel et non pas rationalisé. Ceci dit, ces héros négatifs, on les retrouve déjà dans la mythologie classique. Prométhée est puni pour avoir enfreint certains interdits. Icare est puni pour avoir monté
trop haut près du soleil.
Et
Maître Zacharius est puni pour avoir voulu voler le temps, devenir maître du temps.
Et l'égal de Dieu. Oui,
parce que, évidemment, cette nouvelle est une nouvelle peu connue, mais qui est très belle, et qui est dans laquelle le personnage voudrait inventer... c'est un horloger, il voudrait inventer le mouvement perpétuel. C'est donc une manière de dire qu'on pourrait se rendre maître du temps, le temps humain, au fond, étant, grâce à une action de l'homme, fabriquant une machine éternelle, et étant évidemment devenu, hors du temps, étant devenu une éternité. À ce moment-là, et on est Dieu.
Alors je crois qu'il faudrait quand même s'interroger sur les raisons de cet échec. Bon, il y a les modèles mythologiques où l'on trouve déjà de tels échecs, mais enfin, le mythe n'explique pas tout, et le mythe a peut-être lui-même besoin d'être expliqué. Je pense que dans ces interdits, il y a aussi, il faut recourir au freudisme le plus élémentaire, et il y a aussi l'interdit posé par le père. Le fils veut ressembler trop au père, se substitue au père, et le père le châtie.
Simone Vierne.
Oui, alors dans certains rapports, et si on est, j'allais dire, initié, si on s'y prend bien, on peut devenir l'égal du père. Je veux dire que Harbert peut prendre la succession de son père, Cyrus Smith. Ou dans Les Enfants du Capitaine Grant, Robert Grant.
De son père adoptif.
Alors là, c'est toujours le père adoptif, c'est le père spirituel.
Oui.
Alors voilà, on peut tout à fait devenir le fils de son père sublime, si vous voulez.
C'est ça,
alors là,
oui.
Ça marche.
Là, ça marche.
Il y a une quantité d'orphelins chez Jules Verne qui est tout à fait étonnante.
Oui, qui sont toujours adoptés par des oncles ou des...
Oui. Et je pense qu'il y a cela. Il y a aussi probablement que dans cette question de ces héros qui tournent mal, de ces héros qui sont des héros maléfiques, ce désir peut-être cette espèce de peur qu'a Jules Verne alors face à la science. Là, j'ai l'air de dire quelque chose évidemment qui contredit les idées reçues à propos de Jules Verne, chantre de la science et du progrès. Mais en réalité, beaucoup, presque pratiquement tous ces héros maléfiques, et je songe aussi aux héros de Face au drapeau qui construit ce canon, etc. Enfin,
oui,
avec
oui,
une.
Oui.
Eh bien, c'est parce qu'ils font des inventions qui sont des inventions scientifiques qu'après tout nous avons connues, nous connaissons d'une manière ou d'une autre, qu'ils sont empêchés, enfin qu'ils sont punis. Jules Verne a une certaine peur, il n'a pas non seulement une certaine peur, mais une peur certaine. Je rappelle que dans 5 semaines en ballon, dans 5 semaines en ballon, qui est son premier roman, il dit j'imagine que lorsque le monde industriel, que le monde sera devenu industriel, enfin je cite de mémoire, ça sera une époque très ennuyeuse, et j'imagine très bien que le monde va sauter comme une chaudière qui serait chauffée à, je vais sûrement me tromper, à 10 000 atmosphères ou quelque chose approchant. Alors, dès 5 semaines en ballon, il y a ces fantasmes d'apocalypse qui sont liés à une peur. Alors, qui a des quantités de raisons, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous, des quantités aussi de modèles mythiques de cette peur du sacré, qui est à la fois bénéfique et maléfique, et de la difficulté qu'on a à le manier, parce que pour manier le sacré, il faut savoir. Hein. Il faut avoir.
Oui,
et puis, des raisons, évidemment, de peur du père, qui sont,
il y a des raisons
qui
de,
sont liées
de peur
à
Jules
Verne lui-même.
Oui, oui, et du schéma oedipien classique qui sont très, très apparents chez Jules Verne, ça, très apparent. Et de même qu'il a peur que la Terre saute, de même a-t-il constamment peur que les réserves d'énergie s'épuisent.
S'épuisent, oui.
Les réserves de charbon, notamment l'épuisement des réserves de charbon revient chez Verne 3 ou 4 fois. C'était une de ses hantises. Et là encore, il voyait les aspects négatifs de la science extrêmement tôt et non pas seulement dans un soi-disant pessimisme tardif. Il a été lucide dès le début. Je crois que c'est votre avis aussi.
Simone Verne.
Oui, bien sûr.
Oui.
Et alors, pour en revenir au héros tout de même, puisque là j'ai fait une petite digression, mais c'était pour essayer d'expliquer ce point de ces héros en noir, si je puis dire, au lieu d'être les héros lumineux, je crois qu'il y a aussi un point qui est intéressant, c'est le rapport entre le maître et le novice, qui n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le novice, c'est quelqu'un qui est toujours plein d'admiration pour son maître, et puis que tout va bien se passer, et qu'il va suivre la trace qui lui est donnée, de même que Lidenbrock essaye de suivre à la trace Arne Saknussemm. Or, enfin, les rapports sont plus compliqués que cela, je crois.
Oh oui, les rapports sont beaucoup plus compliqués. D'abord, je reviens sur le fait que Axel, qui est le neveu et aussi un peu l'élève de son maître, ne perd pas une occasion d'en montrer les ridicules, puisque c'est lui le narrateur du récit. Donc, il introduit la distance et il voit son oncle comme un objet, ce qui lui permet toutes sortes de moqueries.
Mais alors,
et
oui,
ce n'est pas le seul.
Il se moque, mais il l'aime bien.
Ah, il se moque, mais il l'aime bien. Enfin,
oui.
Il en fait saillir
les ridicules. Il l'admire aussi, parce qu'il admire sa science.
C'est exact. Mais alors, il faut voir l'évolution du héros. Par exemple, moi, je suis persuadé qu'il y a une filiation entre Lidenbrock, qui est obsédé par son centre de la Terre, et un personnage comme celui d'un roman moins connu, Hector Servadac, Palmyrin Rosette, qui est un savant astronome qui a découvert une comète. Il s'agit d'une comète qui a arraché, en passant contre la Terre, un certain lambeau d'écorce terrestre, où vivent des habitants, qui donc deviennent les hôtes d'une nouvelle comète. Et alors, Palmyrin Rosette se déclare propriétaire de cette comète, il est absolument ridicule, il lui faut son tableau, il lui faut ses lunettes, il lui faut son télescope, c'est un personnage impossible, acariâtre, etc. Et il se trouve que c'est l'ancien professeur d'Hector Servadac lui-même qui est là-dedans le héros positif, celui qui assure la survie de ses compagnons, qui a la sympathie de tout le monde, etc. Et alors, l'élève, ne manque jamais une occasion de se moquer de son ancien professeur, et l'ordonnance Benzouf du capitaine Servadac est encore plus agressif et acerbe envers Palmyrin Rosette. Alors, on voit là que le héros conquérant devient réellement un personnage complètement ridicule, et que celui qui était son élève devient maintenant son critique.
Il devient son critique. Mais alors, je crois que là, c'est pas tout à fait le même cas. D'ailleurs, ça prouve bien la complexité du héros vernien. C'est pour ça qu'on parlait d'ombre, d'ailleurs. Parce que, en fait, je voudrais presque dire que les manières diverses que Jules Verne a pour présenter son héros font des ombres qui mettent du relief. Absolument. C'est en cela, d'ailleurs, je pense qu'on parlait du héros et son ombre. C'est que dans Palmyrin Rosette est, j'allais dire, moins indispensable que Lidenbrock. Non seulement à la survie du héros, il faut pas seulement se placer dans l'aventure, mais même au déroulement de l'aventure. Je sais bien que c'est lui qui est capable de calculer.
Ah, c'est le seul capable de calculer. C'est le seul capable de la comète, de savoir quand est-ce que la comète reviendra à la Terre.
Personne ne peut rien y faire. La comète serait revenue sans lui.
Oui, mais il est le détenteur du savoir.
Il est le détenteur du savoir, mais alors si vous voulez, de ce point de vue-là, il en fait vraiment encore moins que Lidenbrock, puisque il peut bien calculer, il a quand même le mérite de calculer le moment où il va falloir abandonner la comète pour revenir sur Terre.
Ce qui n'est pas rien. Et puis il rassure tous les gens en disant que la comète est entraînée sur une orbe elliptique qui donc a des chances de la ramener sur Terre, au lieu d'être sur une courbe parabolique ou autre
qui amènerait
dans les espaces infinis, c'est cela. Et alors, il y a aussi les rapports maître-valet qui sont très intéressants, parce qu'ils introduisent, valet ou aide, parce qu'ils introduisent une complémentarité. Je pense à Phileas Fogg et à Passepartout. Passepartout est le valet qui adore son maître, mais qui en même temps le retarde par ses imprudences à la mosquée ou qui se fait capturer par les Sioux. Enfin, c'est lui qui retarde sans le vouloir son maître.
Le tour du monde.
Oui, et à la fin, en revanche, c'est lui qui dame le pion à son maître, parce qu'enfin, Phileas Fogg, qui paraît-il a voyagé partout et a une grosse expérience des voyages, ne s'est pas aperçu, lui, qu'en faisant le tour par l'Est, il gagnait un jour. Et c'est son valet qui le lui découvre.
Un peu par hasard, mais il le lui découvre.
C'est son valet qui le lui découvre, si, si. Et je trouve qu'un personnage comme le docteur Clawbonny, dans Hatteras est également une sorte à la fois d'explorateur et de savant, passionné, lui aussi ne voit que son pôle comme Lidenbrock ne voit que son centre. Et Clawbonny, le personnage au contraire humain, adoucissant, qui pense aux aspects de nourriture, de confort, etc. Et alors, le fait même qu'il y ait des personnages comme ça, complémentaires, un peu comme dans le couple Don Quichotte et Sancho Panza, eh bien, s'il faut un complément au héros, c'est que lui-même est incomplet. Cela montre le défaut du héros. Cela montre le défaut du héros, qui est souvent un monomane.
Oui, dans Hatteras, c'est évident. Il est monomane.
Et dans Lidenbrock aussi.
Et dans Lidenbrock aussi, oui. Lidenbrock ne devient pas fou, Hatteras devient fou. Alors,
et oui.
Complètement.
Complètement.
Oui, il y a là, si vous voulez, cet aspect qui fait que le héros... en plus, je crois que c'est quand on lit l'ensemble de l'œuvre que c'est important, parce qu'il y a des échos qui jouent, des ombres qui
Absolument.
Jouent les unes sur les autres, des ombres portées, si vous voulez,
d'un roman
sur l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on voit ces espèces de décalages. Par exemple, le décalage entre, je ne sais pas moi, Clawbonny, Passepartout, ou bien Gédéon Spilett, qui est l'aide de Cyrus Smith.
Oui, lui est l'aide de Cyrus Smith.
Bon, qui est assez proche de Clawbonny, mais qui n'a pas tout à fait la même fonction que Passepartout. De ce point de vue, qui est un point de vue de fonction, il y a une grande variété, une grande diversité.
Très grande, oui, très très grande.
Et je crois aussi que il y a... enfin, oui, les valets avec leur maître, d'ailleurs, enfin, il y en a bien d'autres. Très souvent, ils sont très utiles. Fragoso dans la Jangada.
Ah ben écoutez, voilà encore un exemple typique. Il y a un juge, Jarriquez, qui se prétend absolument spécialiste des cryptogrammes, et il sèche au contraire sur un cryptogramme qu'il n'arrive absolument pas à déchiffrer. Eh bien, celui qui donnera la clé de ce cryptogramme, c'est un simple coiffeur, et non pas le savant détenteur du savoir.
Oui, le savant détenteur du savoir, c'est quelqu'un qui est peut-être trop abstrait,
oui.
Et qui se contente d'essayer de faire des calculs, alors que Fragoso, lui, se dit qu'il faut aller voir sur les lieux, et il essaye de faire, je veux dire, une enquête policière, ce qui est vrai d'ailleurs, une enquête semi-policière, et il tombe sur la clé qui permet de déchiffrer le...
C'est cela.
Alors évidemment, il y a évidemment un jeu extraordinaire, à l'idée que ce soit un coiffeur, alors Fragoso, Figaro, enfin, il y a toute une... Il y a aussi des ombres qui jouent dans ce sens-là, c'est-à-dire un certain nombre de personnages qui se profilent, ne serait-ce que par les noms d'ailleurs, derrière les héros verniens.
Oui, eh ben ça, je pense que... Enfin, je voudrais vous poser la question. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une influence de la comédie classique et des valets de comédie qui souvent, dans le théâtre du XVIIe ou du XVIIIe, répètent ce que font leurs maîtres à un échelon plus bas, mais alors, et par conséquent, les singent un petit peu.
Ah oui, je pense.
D'abord... Et par conséquent, les ridiculisent un petit peu, du fait même qu'ils les singent.
Forcément, parce que Jules Verne, d'abord, était passionné de théâtre.
Il était passionné de théâtre, être auteur et ça se sent dans ses romans.
Ça se sent sincèrement, il voulait être auteur de théâtre. C'est vrai aussi qu'il y a une dimension du héros qui évidemment... nous concerne peut-être pas directement, mais qui est le rapport du héros au hérotype de théâtre. Et ça, il n'y a pas seulement Fragoso, il y en a un certain nombre d'autres.
Oui,
Passepartout aussi. Il y a énormément de clowns.
Oui, Passepartout est un clown.
De personnages clowns.
Oui, oui. Et qui ne sont pas là simplement pour distraire. Ils ont un rôle fonctionnel. Oui.
Par rapport au héros, ils jouent une sorte... C'est un peu bizarre de parler d'ombre, mais enfin, il a bien fallu trouver un titre. Et un titre général.
Oui, certains sont des contrepoids, certains sont des compléments, certains sont des critiques, certains sont des aides. C'est extrêmement varié et subtil, ces rapports entre les personnages de Verne.
Simone Vierne.
Je crois aussi que il y a... quelque chose alors dont il faudrait que nous parlions, parce que jusqu'à présent nous avons parlé de héros, j'allais dire au sens classique du terme, de héros mythiques, nous avons parlé de héros qui étaient à un second degré, qui n'étaient pas des personnages, des protagonistes, mais qui faisaient une espèce de rapport d'ombre et de lumière avec le personnage principal. Mais il n'y a pas seulement non plus des héros noirs, il y a des héros, je n'ose pas les appeler des anti-héros, parce que anti-héros, c'est un terme beaucoup trop moderne, mais ce sont des héros dont Jules Verne s'est moqué d'une certaine manière, qui sont à la fois des héros démystifiés et mystifiants.
Oui, et même surtout, je trouve, mystifiants.
Oui, je trouve que ces héros sont intéressants. Quand on considère l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne, justement parce qu'il porte une certaine ombre au type même du héros, type Cyrus Smith, si vous voulez, héros de l'île mystérieuse, héros sérieux, héros. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on lit l'ensemble de l'œuvre, ce qui est tout de même assez long, je dois dire, puisqu'il y a quand même 65 romans, mais il faut compter les nouvelles aussi. On doit quand même tenir compte de cela. Et enfin, évidemment, en ce qui concerne, il y a un jeu de Jules Verne. Jules Verne joue et aime jouer avec ses personnages. Je veux dire que il ne les prend pas toujours au sérieux et il n'en fait pas uniquement des héros qui ont une mission à accomplir, qu'ils accomplissent et qui, grâce à cela, sont récompensés. Et bien que je me sois beaucoup intéressée à l'aspect initiatique, c'est-à-dire précisément au fait que le héros est un héros de quête, et c'est un héros de la quête. J'allais dire que c'est un héros de la quête du Graal modernisé. Il y a aussi des héros ridicules. Mais je signale qu'il y a eu quand même, au Moyen-Âge, au début de la Renaissance, des héros ridicules dans les épopées, car l'épopée, à la fin du Moyen-Âge, est contestée. Et il y a des épopées ridicules.
François Raymond.
Oui, et puis elles seront énormément contestées au niveau du Don Quichotte, bien entendu,
qui est
le premier roman moderne. Mais alors, ces héros, peut-on encore les appeler des héros de romans d'aventure ou des héros épiques? On se le demande vraiment, parce que ce sont des héros cachés qui manœuvrent dans l'ombre, mais qui déplacent les autres comme des pions, s'en amusent et sont réellement plutôt des personnages de mystificateurs.
Parfois, je me suis souvent demandé s'il n'y avait pas une espèce de parallèle entre, si vous voulez, il y avait une face sérieuse et une face ludique.
Le héros et son ombre, justement.
C'est cela. Alors, Nemo, à la fin de l'île mystérieuse, parce que quand même c'est un héros type, Nemo, Lorsque les héros le découvrent, cette providence que l'on se représentait avec une grande barbe blanche, etc. Enfin, les héros comme Pencroff se représentaient avec une grande barbe blanche et une
comme
boule.
Le portrait de Dieu le Père.
Une boule dans la main, c'est-à-dire c'est exactement le portrait de Dieu le Père. Il s'appelle Nemo. Il a conquis quand même une identité, mais pour d'autres raisons. C'est un prince indien, mais enfin, ça, c'est un petit peu accessoire. Il est en train de mourir. Le Nautilus ne pourra plus jamais sortir de la grotte, et d'ailleurs, il veut être enterré dedans. Et il se demande s'il a eu tort ou s'il a eu raison. On a vraiment un dieu qui meurt. C'est-à-dire que, dans une certaine perspective du mythe, la quête ne va pas jusqu'au bout. On disait tout à l'heure qu'il y avait des quêtes qui n'allaient pas jusqu'au bout, qui n'allaient pas jusqu'au centre de la Terre. Et si Claudel aimait bien l'île mystérieuse, mais n'aimait pas la fin de l'île mystérieuse, il en donnait une raison. Il disait, oh oui, à la fin, on dévoile toutes les raisons scientifiques, raisonnables, et c'est pas intéressant du tout. Mais moi, je suis à peu près sûre que la vraie raison, c'était pas celle-là. La vraie raison pour laquelle Claudel n'aime pas la fin de l'île mystérieuse, c'est que les héros ne découvrent pas Dieu.
Non, il ne découvre pas
rien. Bien. Alors, autre face, c'est ce que j'appellerais le dieu dérisoire, qui est si magnifiquement et horriblement incarné par le docteur Schoenhausen dans Village aérien, où les êtres qui partent à la quête de l'origine, puisqu'ils vont trouver les êtres intermédiaires entre les singes et les hommes, les trouvent bien, mais trouvent aussi qu'ils sont gouvernés par une espèce de roi fou, qui est un ancien...
Mais mieux que fou, gâteux.
Il est gâteux. Il se fait porter sur une sedia gestatoria.
Il y a d'ailleurs des allusions anticléricales très explicites. Hein.
Et il y a une... l'orgue de Barbarie joue la valse du Freischutz.
L'orgue, hein.
L'orgue de Barbarie, oui.
C'est plus l'orgue du capitaine Nemo.
C'est plus l'orgue du capitaine
Nemo.
Ni l'orgue de l'église. Oui. Joue la valse du Freischutz. Et alors, véritablement...
Ah, c'est la dérision complète.
On a une dérision complète. Alors, si vous voulez, le héros est joué, le héros qui devrait représenter une espèce d'absolu, une espèce de modèle absolu,
oui.
Il meurt. C'est le crépuscule des dieux, si vous voulez, de la fin, qui est si beau, parce que c'est une scène merveilleuse, de l'île mystérieuse dans laquelle on voit le Nautilus s'engloutir petit à petit dans la grotte et jeter ses derniers feux. Ou bien alors, il est contesté d'une autre manière par la dérision.
Ou alors, il est remplacé.
Parce que
justement, ces personnages d'excentriques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tout puissants. Ce sont eux qui édictent leurs règles.
Oui,
c'est d'après leurs règles que se font toutes ces courses autour du monde. Ce qui a pris la place du héros ou du dieu, c'est un mystificateur, ce n'est pas rien. Et ce qui a pris la place de la quête, eh bien ce n'est plus du tout la quête du Graal, c'est la quête très intéressée d'un diamant, d'un héritage, de ceci. Et alors pour cela, Jules Verne est féroce contre les cupides. Toujours, le trésor convoité disparaît au bout. Alors ça, là, c'est l'échec et la punition est absolument systématique. Les héros sont tous floués. Et parfois le lecteur aussi, parce qu'il y a des rebondissements de suspense ou des imprévus. Enfin, Verne, naturellement, joue aussi sur ce plan-là. Alors, je pense que l'on peut dire que...
Oui, quel est le sens en définitive ? Quel sens peut-on donner ? Quelle raison peut-on donner à cette espèce de détournement du héros qui finit par devenir, non plus un héros, mais un personnage... ridicule.
Eh bien, moi je crois qu'il faut replacer Verne dans son époque, enfin dans son histoire littéraire. Il est à la fin du romantisme. Il est certain qu'un personnage comme Nemo est encore un héros romantique, disons même plus précisément byronien.
Hein ? Oui, bien sûr.
Et ensuite, de même que Flaubert s'est détaché de son propre romantisme de jeunesse. De même, Verne s'est détaché du romantisme et il a fait des romans ensuite de jeux ou de parodies.
Pas toujours quand même. Hein,
pas toujours, mais enfin, il en a fait un certain nombre.
Plus vers la fin qu'il n'en faisait au début.
Oui, mais enfin, je vous rappelle déjà les Tribulations
de
Chine.
Oui,
c'est ça. De même que Flaubert a fait son Bouvard et Pécuchet. Alors, je pense qu'il est absolument à la charnière de la fin du romantisme, mais aussi à l'aube d'une modernité où l'on peut placer Bouvard et Pécuchet, dont je viens de parler, mais où on pourra placer ensuite des héros visiblement à la fois mythifiés et parodiés, comme le Surmal de Jarry, par exemple, qui connaissait très bien Verne, ou même Raymond Roussel. Et bref, oui. Les auteurs de notre modernité pour qui le héros et la forme même du roman sont complètement subvertis.
Oui, je me suis demandé dans la même perspective s'il n'y avait pas aussi alors une espèce de désir chez Jules Verne d'explorer toutes les possibilités de la figure romanesque du héros, toutes ces possibilités, les possibilités sérieuses, les possibilités pas sérieuses, les possibilités de héros très grands, les possibilités du héros
absolument,
ludique, etc.
Absolument.
Et des figures, si vous voulez, c'est assez curieux d'ailleurs parce qu'il y a un double projet alors à ce moment-là chez Jules Verne qui est à la fois de raconter, comme on le sait, l'exploration complète de la Terre,
oui, ça, c'est
et en quelque
degré.
Sorte il fait aussi l'exploration complète du héros héros de roman d'aventure. Parce que je crois qu'on a là une galerie.
L'exploration complète des possibilités narratives du roman d'aventure. À tous ces niveaux, le héros et ses personnages, le parcours du héros et les détours qu'ils sont obligés de faire pour finalement ne rien trouver du tout, et les différents registres dont vous parlez du sérieux, de la gravité, du tragique, ou au contraire de la parodie, de la dérision. Il a exploré toutes les possibilités de ce cadre qu'on peut croire étroit du roman d'aventure, soi-disant pour la jeunesse. Enfin, à mon avis, il le fait complètement éclater, ce cadre, justement en explorant toutes ces possibilités.
Jules Verne, le héros et son ombre. Les participants à la décade de Jules Verne du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle dialoguent maintenant avec François Raymond et Simone Vierne. C'est Daniel Compère qui engage le débat.
J'ai trouvé cet échange entre François Raymond et Simone Vierne tout à fait passionnant, tout à fait intéressant, tout à fait éclairant sur le héros vernien. La question que je me pose, que je voudrais leur poser d'ailleurs par cette occasion, c'est, au fond, vous avez parlé de l'œuvre de Verne en général, à travers le héros, bien sûr, montrant qu'on pouvait y trouver, d'une part, l'aspect négatif de la science, qu'on y retrouvait le schéma oedipien, le schéma initiatique et bien d'autres choses.
Oui,
mais
pas complet.
Alors, la question que je pose, donc, c'est... Pourquoi, alors que je crois que l'on peut trouver également ces éléments dans bien d'autres œuvres, pas seulement au XIXe siècle, mais à d'autres époques, pourquoi y a-t-il encore aujourd'hui cette fascination des récits de Jules Verne chez les lecteurs de tous âges ?
Simone Vierne ?
Je crois d'abord que, précisément, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais que j'ai dit un peu vite et maladroitement à la fin, je crois qu'une des raisons pour lesquelles les critiques et les lecteurs se passionne pour Jules Verne et sont de deux ordres. Disons que les critiques sont fascinées peut-être par cet aspect qui fait que Jules Verne essaye d'explorer, pour le dire d'une façon un peu pédante et un peu rapide, toutes les possibilités d'écriture, notamment ce qui concerne la constitution du héros. Bon, vous me direz que c'est peut-être parce qu'il a écrit énormément de romans. Mais enfin, après tout, il pourrait écrire des romans qui iraient toujours dans le même sens.
Et stéréotypé,
oui, c'est
hein.
Ça.
Ce n'est pas le cas.
Et c'est vrai pour beaucoup des épigones, c'est-à-dire des gens qui ont imité Jules Verne, parce qu'alors là, j'en ai lu dans mon enfance aussi, il y en a des quantités. Et alors là, c'est très répétitif.
Ah oui, Paul Divoy, etc., des
c'est
gens
ça.
Comme ça, oui.
Oui. Un certain Léonville aussi qui pille Jules Verne d'une façon tout à fait extravagante, qui ne serait pas permise à l'heure actuelle et qui voudrait des procès. Mais il y a aussi le fait que, comme le disait François Raymond, ce qui nous fascine, c'est que d'une certaine manière, Jules Verne, et ce que je disais, enfin ce que disait Le Clésio, Jules Verne nous parle de problèmes, ces fameux problèmes paradoxaux qu'essaye de résoudre le mythe, puisque le mythe, c'est le langage et la forme, la figure imaginaire qui essaye de rendre compte, par exemple, du statut de l'homme. L'homme est pris entre le désir de vivre et le fait qu'il sait qu'il va mourir. Eh bien, les récits de mythes initiatiques lui montrent que certes, il est mortel, mais qu'il peut quand même vivre. Et ça, bien entendu, c'est pas logique du tout. Et le roman, notamment le roman d'aventure, a pris le relais. Il a pris le relais dans les épopées. Ensuite, eh bien, disons qu'il y a une espèce de trou et que Jules Verne commence quelque chose qui, d'ailleurs, je crois, est en train de revenir dans le roman moderne au-delà du nouveau roman, dans les romans très récents, je pense à Tournier, à Faragie, à Grinville, etc., dans lequel on essaye de résoudre d'une manière, avec un langage moderne, avec un décor moderne et, dans un sens, avec des images modernes, cette même sorte de problème. C'est pour ça que ça nous fascine. C'est pas du tout parce que, évidemment, le Nautilus préfigure, je suppose, le Nautilus atomique. En tout cas, c'est mon sentiment.
François Raymond.
Oui, absolument. Je crois qu'on pourrait ajouter à la liste des auteurs que vous avez cités toute une partie des auteurs de science-fiction.
Oui, sans doute.
Dans la mesure où, pendant longtemps, Verne a été considéré comme un auteur pour enfants, et dans la mesure où, en ce 150e anniversaire, il semble que les adultes et de plus en plus tendance à s'annexer Jules Verne, dans quelle mesure peut-on encore considérer Jules Verne en 1978 comme un auteur pour enfants ?
Eh bien, je crois qu'il le redevient. Enfin, il le redevient d'abord parce que j'ai rencontré non seulement ces élèves de 6e avec qui j'ai eu la chance de faire cette expérience et qui avait un professeur excellent et qui m'a permis justement de voir comment pouvait réagir une classe d'enfants de milieu modeste, d'enfants de milieu cultivé, ce qui était très important. Mais j'ai aussi rencontré des fils de collègues lors d'un certain nombre de conférences que j'ai faites et qui me posaient des quantités de questions. Alors, il y en a que Jules Verne laissait totalement indifférent, que ça ennuyait même. Et leurs parents leur avaient prêté, parce que leurs parents avaient aimé Jules Verne, leur avaient prêté les beaux Jules Verne dans la collection Hetzel, ils avaient lu 2 pages et puis ils les avaient rejetés. Mais ceux qui aimaient Jules Verne en étaient passionnés. Et je crois qu'il y a un retour à Jules Verne, Dieu merci, par l'intermédiaire de livres qui sont quand même plus complets que ceux que j'ai eu, moi, le malheur et la chance à la fois de lire dans ma jeunesse. Et nous avons peut-être essayé de montrer, justement, avec en parlant de ce héros, c'est que au fond, il pouvait effectivement, moi je crois qu'il peut intéresser, qu'il intéresse vraiment les jeunes adolescents, peut-être un peu plus jeunes que les adolescents lecteurs de Jules Verne qui devaient le lire vers 14 ou 15 ans, mais enfin les enfants sont en avance maintenant, ils le lisent vers 12 ans.
François Raymond.
Oui, alors là, il faudrait voir.
Il faudrait faire des statistiques plus importantes que les miennes.
Mais c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Je crois que, si vous voulez, les enfants, les élèves du premier cycle peuvent être en effet passionnés et fascinés par Jules Verne, et qu'à partir du second cycle, de 14 ans ou 15 ans, soit qu'ils soient sollicités par d'autres intérêts, soit qu'ils aient lu la science-fiction moderne, qui par exemple rend les entreprises des héros de Jules Verne très, très timorées par comparaison, très vieillies, très dépassées.
C'est que le vocabulaire de la science-fiction moderne est un vocabulaire beaucoup plus pauvre que celui de Jules Verne, même chez de très grands romanciers, et que les élèves ont un mal terrible à comprendre Jules Verne. On est obligé de leur expliquer beaucoup de mots, parce que le langage du 19e siècle, le langage de Jules Verne, et puis d'ailleurs, vous savez, ça vaut aussi pour les auteurs du 19e siècle en général, et pas seulement pour Jules Verne, ils ont des difficultés. Mais enfin, quand ils arrivent à surmonter ces difficultés, à moins évidemment qu'on ait affaire à des enfants, cultivés par tradition et milieu familial, évidemment, ils le lisent. Mais bien sûr, la science-fiction, c'est plus facile pour eux, parce que c'est un langage plus moderne. Je sais pas si d'ailleurs ils n'ont pas c'est pas un petit peu le même intérêt d'une certaine manière, celui qu'on peut porter à Jules Verne et celui que il porte à certains romans de science-fiction moderne.
Je vais vous poser une toute petite question mais qui risque d'induire une réponse très très courte ou très très longue. Vous parlez depuis 70 minutes et pas une seule fois vous n'avez prononcé le mot femme.
Ah, c'est à moi que ce discours s'adresse. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de femmes, parce que d'héroïne qui soit l'héroïne qui entreprend le voyage et qui dirige l'expédition, il y a l'héroïne du Pays des Fourrures. Bien.
Oui, Paulina Barnett.
Alors c'est gênant parce que
Mistress Brannigan.
Et puis Mistress Brannigan, qui est un cas un peu particulier, d'une part parce que Mistress Brannigan est la figure de Lady Franklin, qui était, elle, partie comme Mistress Brannigan, rechercher son mari perdu dans les glaces. Elle n'aura pas la chance de Mistress Brannigan, puisque Lady Franklin retrouvera jamais l'expédition polaire de Lord Franklin. Mais Paulina Barnett, c'est un petit problème, parce qu'on dit que, enfin, elle n'est pas jeune, elle a une allure masculine, alors on est un petit peu gêné. Cela dit, il y a des femmes, c'est vrai. Et j'étais très récemment fascinée par ce que nous avait dit Piero Gondolo della Riva à propos du secret de Wilhelm Storitz. C'est-à-dire que dans la première version, celle qu'a écrite Jules Verne, puisque celle que nous connaissons, la fin a été arrangée par Michel Verne, l'héroïne qui boit un élixir, qui boit contrainte et forcée d'ailleurs, un élixir qui la rend invisible, reste définitivement et pour jamais invisible. Alors que dans la version qui a été faite par Michel Verne, on a d'ailleurs une solution tout aussi fantastique et proche des contes, qui est que lorsqu'elle accouche d'un enfant, elle recouvre sa forme primitive et visible. Et d'ailleurs, ça, c'est tout à fait dans la tradition de La Belle au Bois Dormant. La tradition du conte primitif de La Belle au Bois Dormant. Mais, alors il y a ce personnage. Il y a la Stilla, qui est l'héroïne du Château des Carpates.
Il y a Nell dans Les Indes Noires.
Mais alors, Nell dans Les Indes Noires, elle, ça va très bien, parce que Nell, c'est un personnage... Bon, voilà. Alors, la Stilla, c'est aussi un personnage qui, elle, est morte, mais que le héros croit voir, grâce à un jeu de miroir, et croit entendre grâce à une sorte de phonographe. Mais en fait, c'est encore un personnage absent. Alors, Nell me paraît poser un autre problème... parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, d'abord parce que j'adore Les Indes Noires. C'est un personnage qui, au fond, est un personnage tout à fait fantastique, étant donné qu'elle est née dans la mine, cette mine écossaise, qu'elle n'a jamais vue, qu'elle a toujours vécu dans la mine, qu'elle est, en définitive, disons grossièrement, la petite fille du dieu de la mine, de celui qui se prend, en tout cas, pour le dieu ou le génie, disons le génie.
Oui, encore un héros maléfique.
Un héros maléfique, oui, le génie de la mine. Et elle va voir le jour, c'est vrai, dans un paysage que Jules Verne adore et qui est merveilleux, qui est l'Écosse, et qui pour Jules Verne est vraiment un des plus beaux pays du monde. Mais elle décidera de continuer à vivre sous la terre avec celui qu'elle aime. Alors là, maintenant, on est du côté de Proserpine, c'est-à-dire du côté des morts. Et je dois dire qu'effectivement, beaucoup des femmes qui sont particulièrement fascinantes chez Jules Verne sont des femmes absentes ou des femmes mortes. Alors, je voudrais pas en tirer d'énormes conclusions parce que, d'abord, dans un roman d'aventure, il faut bien être honnête, à l'époque, le roman... à l'époque, je dois être d'un grand optimisme. À l'époque, le roman d'aventure est masculin. Et je donne toujours cet exemple. Dans Voyage au centre de la... Vous savez que Voyage au centre de la Terre a donné lieu à un film qui est d'ailleurs passé à la télévision il n'y a pas tellement, tellement longtemps. Et alors, bien entendu, impensable, pas de femme dans un film. Bon, on rajoute donc... Elle existe dans Voyage au centre de la Terre, seulement Gros Ben se garde bien de descendre. Elle dit, c'est une femme... Je partirai bien moi-même, dit-elle à Axel, qui n'a pas du tout envie de partir. Mais enfin, une femme ne ferait que vous encombrer dans une expédition. Eh bien, je vous assure que quand on la voit au cinéma, on se dit qu'effectivement, elle encombre l'expédition avec ses grandes robes et ses bottines. Le personnage est parfaitement déplacé dans l'aventure. Alors, il y a là une question historique, enfin, une question d'époque. On ne peut pas imaginer, sauf Paulina Barnett, qui est très masculine, on peut difficilement imaginer qu'il y ait une femme qui participe à l'aventure. C'est pourquoi il est difficile qu'elle soit vraiment une héroïne. Alors elle prend la figure, j'allais dire, de la muse, de Béatrice, de la Béatrice de Dante. C'est celle qui... promeut l'aventure. Alors, je ne dirai pas ce que je pense de cela, je trouve ça extrêmement misogyne, mais c'est la misogynie de l'époque. Jules Verne, il n'est pas plus, oui, peut-être un peu plus misogyne que les autres, mais pour d'autres raisons. L'époque est ainsi, et la vision de la femme me paraît une vision qui a des côtés poétiques. Mais en parlant du héros, vraiment du héros type, c'est vrai que la femme n'y a pas beaucoup sa place.
Enfin, je pense quand même que le personnage de Nell est un personnage de jeune fille un peu fantastique, c'est exact, mais séduisante, désirable et peut-être désirante. Et peut-être désirante, non ? Il y a quand même...
Oui, sans doute.
Il y a quand même de l'amour, enfin, dans toutes les dimensions du mot, dans des romans comme Les Indes Noires ou comme Le Secret de William Storitz.
Oui, ou dans Le Château des Carpates aussi. Mais alors là, c'est difficile parce qu'on aime une morte. Il y a deux personnages qui aiment une morte. Un qui en est fou.
Enfin, Nell me paraît vivante.
Oui, Nell est vivante.
Et aussi les femmes de la Jangada. La petite Lina est...
Oui, Lina est vivante.
Est vivante. Il y a un triple mariage, ou un double en tout cas, qui s'accomplit à la fin du roman. Et il y a même, on pourrait trouver des allusions érotiques très nettes dans ce roman, peut-être même dans La Ville flottante, dans Les Indes Noires, et dans les romans en général, où se retrouve le schéma édipien. On trouve la femme objet de désir et désirante.
Oui,
mais quelquefois.
Rarement, et c'est bien gazé. Et bien...
Oh, mais dans le langage apparaissent des illusions manifestement érotiques, et il serait trop long de les citer.
Zelle lui disait de temps en temps de mettre des femmes, il aurait probablement été assez content que Jules Verne en mette plus, et Jules Verne disait lui-même que c'est une chose qu'il ne savait pas bien faire et qu'il était très incapable de mettre des mots d'amour dans ses romans.
Au début.
Je ne suis pas tout à fait sûre que cette absence de la femme comme... je veux dire, comme récompense ou comme but, soit absente de Jules Verne. D'abord, pour Voyage au centre de la Terre, Graüben, c'est Graüben qui l'envoie. Et bon, je sais bien, mes étudiants cette année, lorsqu'ils travaillaient le Voyage au centre de la Terre pour la création, me disaient, pour épouser Graüben avec ses grandes tresses, c'était peut-être pas la peine de faire tout ce voyage. Mais disons qu'ils étaient aussi misogynes que Jules Verne. Mais,
oui.
Mais je crois qu'elle existe, il y a Nell, etc. Mais enfin, elle ne c'est pas elles qui font l'aventure. Elles sont là comme une sorte de but. C'est même vrai chez quelqu'un comme George Sand, dans le roman qui s'appelle Laura, qui est paru exactement en même temps que Voyage au centre de la Terre. Certes, Laura a un rôle bien plus important que Graüben, mais enfin, elle n'est quand même que celle vers qui on va, qui apparaît de temps en temps. Jules Verne, qui avait certainement des difficultés personnel, à parler de la femme, je dis bien à parler, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas, et qui avait de la peine à parler de la femme, peut-être d'ailleurs simplement à cause du genre du roman qu'il écrivait, qui était quand même un genre un peu codé à l'époque, et puis qui était lu surtout par des garçons, après tout, l'éducation des filles comportait pas ce genre de roman. Moi-même, je n'aurais pas dû lire les Jules Verne. J'aurais dû lire seulement La Comtesse de Ségur, c'est pas un hasard si j'ai lu Jules Verne, c'est parce que j'avais des cousins autour de moi. Et donc, il y a quelque chose qui me paraît tenir pas seulement à Jules Verne, qui me paraît tenir à la fois à Jules Verne, à la fois à l'époque, et aussi au genre du roman d'aventure. J'en suis désolée, enfin, pour mon compte personnel, mais c'est vrai que le roman d'aventure est un roman masculin. Au XIXe siècle, et même encore maintenant. Même dans les équipages de science-fiction, la femme n'a pas un rôle définitif et prépondérant.
Je voudrais tout de même souligner qu'elles sont 160 dans l'œuvre de Jules Verne, et qu'à celles que vous avez énumérées, on pourrait ajouter aussi Jeanne de Kermor, qui entreprend tout de même elle-même l'expédition pour retrouver son père. Marie Grant, qui est tout de même à l'origine de l'expédition, bien que ce soit une jeune fille. Il y en a aussi encore d'autres qui ne me reviennent pas. Je vais penser aussi à Hulda et à la jeune fille du rayon vert. Il y a les Clarisse Vaudreuil, qu'on prétend laide, mais que Jules Verne dit belle plutôt que jolie. Et il m'a bien semblé qu'elle n'inspirait pas tout de même l'indifférence. Il y a aussi dans ce roman de famille sans nom une femme que j'estime être la femme idéale. C'est celle qui fait tout faire à son mari, Catherine Archer.
Oui, non, mais je crois qu'il ne faut pas se lancer dans un faux débat. Il y a des femmes dans l'œuvre de Jules Verne. Simplement, si vous voulez, pour nous, lecteurs, enfin, pour la conscience générale des lecteurs de Jules Verne, si vous dites à n'importe qui « Jules Verne, citez-moi un héros », ça n'est sûrement pas un nom de femme qui reviendra à l'esprit. On vous dira Nemo, on dira Michel Ardan, etc. Et je crois que... Bon, vous me dites qu'il y a 160 femmes, mais alors, est-ce que vous avez compté les héros masculins? Parce que je ne les ai pas comptés, moi. Mais alors, ça doit atteindre, je ne sais pas, 500, 600, je ne sais pas.
Non, mais au lieu de dire « citez-moi un héros », on peut dire « citez-moi une héroïne ».
Eh bien, je ne suis pas sûre que les gens soient capables de vous la donner. C'est ça le problème.
Certainement qu'on lit mal, il y a aussi Marfa.
Ah mais on lit mal.
Écoutez, on lit mal, il y a Marfa tout de même, Marfa Strogoff, qui a tout de même un rôle important. Bien sûr,
ah, il y a des
elle
mères.
Risque de trahir
les ministres. Il y a des mères.
Il y a Nadia aussi, dans le même roman. Il y a Nadia qui inspire de l'amour à Michel Strogoff. Il y a une page entière sur la description d'Aouda dans Le Voyage au centre de la Terre. Elle pourrait très bien ne pas y exister. Et Jules Verne a dit lui-même dans une lettre qu'il plaçait la femme à chaque fois qu'il estimait de devoir lui donner un rôle dans le roman. Moi, je crois qu'on peut, évidemment, elle a peut-être pas toujours un rôle important, elle n'est pas aussi nombreuse que les hommes, mais on ne peut pas dire par là que Jules Verne était misogyne.
Ah ben, ça, la misogynie de Jules Verne, effectivement, moi, je crois qu'elle est ni plus ni moins au niveau de celle de l'époque.
Hein.
Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais
ça, d'ailleurs, dans sa vie privée non plus, on ne peut pas
dire
qu'elle était misogyne.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, c'est un débat qui a été souvent mené. Mais je crois quand même que la misogynie de Jules Verne, bon, elle existe ni plus ni moins que celle qui est dans l'idéologie de la société de l'époque.
Évidemment,
et ça,
exactement.
C'est toujours ce que j'ai dit, parce que je trouve qu'on dit souvent la misogynie de Jules Verne, mon Dieu, les plaisanteries qu'il fait sur les femmes sont du niveau de celles qu'on faisait, il y a pas, je sais pas, disons, il y a 20 ans encore dans un certain nombre de familles.
Certains.
Même dans ma famille, moi.
Je pense que il y a tout de même chez Verne un certain nombre de fantasmes très personnels, et à partir du moment où l'on n'aime pas la femme, où le rôle de la femme est diminué, et étant donné d'autre part la formation très personnelle de Verne, je pense qu'apparaissent assez nettement quelques fantasmes homosexuels dans son œuvre. Je vais citer quelques exemples. Dans Les Frères Kipp, par exemple, il y a les deux frères. Or, il est dit très nettement qu'ils ne se sont pas mariés pour pouvoir rester ensemble. Et il y a des scènes très touchantes où dans la prison, dans le bagne de Tasmanie, ils se tiennent par la main. Dans Hector Servadac, il est dit, lorsque le capitaine adopte une petite fille, je crois, hein, il parle avec Benzouf. Et le capitaine dit, je serai le père de cette jeune fille, et Benzouf ajoute, et moi j'en serai la mère. Et il est dit un petit peu plus loin, en réalité, nous sommes mariés depuis longtemps. Dans le rayon vert, il y a les deux oncles qui ont adopté leur nièce, à savoir Helena Campbell, je crois. Hein. Or, Helena Campbell les appelle l'un papa Sam et l'autre maman Sib. Si bien qu'il y a, je crois, chez Jules Verne, une sorte de fantasme de partage. Ténogenèse masculine, n'est-ce pas, où l'on aurait des enfants.
Mais ça prouve pas son homosexualité. Je crois que tous les hommes rêvent d'avoir des enfants parce qu'ils en sont, ils sont très jaloux que ce soit les femmes qui les fassent. Chacun sait ça. Non, c'est une plaisanterie, mais je crois que je ne tiendrai pas à entamer une discussion là-dessus sur les tendances homosexuelles ou la bisexualité, comme dit Soriano de Jules Verne, parce que, à mon sens, mais il est vrai que de ce point de vue-là, j'ai des théories jungiennes. Après tout, Freud avait dit à peu près la même chose. Je trouve que Jung l'a mieux dit, c'est tout. Il y a dans la psyché de tout être, de tous les hommes, une part qui est une part féminine. Et dans la psyché, d'ailleurs, de toutes les femmes, une part qui est une part masculine. Et Jung disait que si on voulait être un homme complet, il fallait, si vous voulez, ne pas mépriser cette part féminine qui pourrait aller très vite, pourrait être le côté, disons, de l'intuition, de la sensibilité. Et, par exemple, enfin, je dis les choses d'une façon extrêmement grossière. Hein, et alors que le côté masculin serait le côté de la rationalité, de la logique, et le contraire d'ailleurs pour la femme. Bon, eh bien, il se trouve que, il me semble que l'écrivain, et on en parlait d'ailleurs avec François Rivière, que l'écrivain développe peut-être plus qu'un autre, précisément parce qu'il est écrivain et qu'il a une compréhension de l'être humain plus profonde que les autres, développe cette totalité de la psyché et de l'être humain. Et que, évidemment, on pourra toujours trouver, mais alors je crois qu'on pourrait les trouver partout, un certain nombre de fantasmes qu'on pourra appeler homosexuels, si on veut. Mais ça ne me paraît pas au niveau d'un fantasme particulier à Jules Verne, qui aurait eu, par exemple, des tendances homosexuelles refoulées. Ni la bisexualité, c'est-à-dire le fait qu'il aurait été attiré, comme le dit à peu près clairement Soriano, à la fois par les hommes et par les femmes. Sans que ça ait produit quoi que ce soit. Alors là, il faut être extrêmement ferme et formel au niveau de sa vie. Hein, dans sa vie, il était hétérosexuel. Et un point, c'est tout. C'est évident.
François Raymond.
Oui, mais enfin, je suis très reconnaissant de cette intervention. Je pense aussi que ces amitiés célibataires, je n'ai parlé que de célibataires, mais en effet, il y a des amitiés célibataires qui sont pour le moins ambiguës dans l'œuvre vernienne et qui sont des aspects, pour nous, assez frappants de son œuvre. Mais ça, il faut bien le lire.
Est-ce que vous ne pensez pas que cela reflète ses amitiés qu'il a eues dans sa jeunesse, notamment avec Ignard, le fait qu'il ait eu vraiment des amis, parce qu'il avait eu un certain nombre de déceptions amoureuses, et puis parce qu'à l'époque, il y avait une amitié masculine qui était, et puis qui est toujours d'ailleurs, je crois, une espèce de solidarité. Or, il a eu des amis, il a eu un frère aussi, avec lequel il était assez proche. Alors, ensuite, étant donné que, mon Dieu, son mariage ne lui a probablement pas apporté toutes les joies et tous les plaisirs qu'il en espérait, il a privilégier ce rapport qui est un rapport masculin et dans lequel d'ailleurs, enfin, vous savez très bien qu'il y a une espèce de stéréotype qui dit que les femmes sont incapables d'être amies entre elles, il n'y a que les hommes qui sont capables d'être amis. Et ça, c'est un stéréotype qui existe même chez les petits-enfants actuellement, que j'ai encore entendu dire récemment à la télévision par un petit garçon.
C'était Jules Verne, le héros et son ombre, avec Francis Raymond et Simone Vierne, le deuxième de trois numéros de dialogue consacrés à Jules Verne. Première diffusion, le 26 septembre 1978, sur France Culture. À suivre.